Merci, remercie aux organisateurs de ces colloques, François Desroches et Hassan Chadi, de m'avoir invité à parler de cette partie du monde musulman, de l'Occident et musulman, et qui est en général assez absent de ces études coraniques. Au début du XVIe siècle, le bibliophile et voyageur flamand Nicolas Clénard, désireux d'apprendre l'arabe, se rend en Espagne à la recherche des manuscrits arabes. Il avait besoin d'eux pour étudier la langue à des fins religieuses. Avant de décider de s'y rendre, il avait cherché des manuscrits arabes dans d'autres pays européens, sans succès. Ces voyages ne changent pas sa chance. Clénard ne trouve pas non plus de manuscrits arabes en Espagne. Désespéré, il décide alors d'écrire une lettre à Charles Quint en 1540. Il y supplie l'empereur de lui envoyer tous les livres arabes que l'Inquisition brûle. Nous ne savons pas si l'empereur a répondu, et si oui, c'est qu'il a répondu, car nous n'avons connaissance que de la lettre de Clénard. Ce que nous pouvons conclure, c'est qu'il était très difficile de trouver des manuscrits arabes à Salamanque et à Grenade. Cependant, Clénard a finalement pu apprendre l'arabe à Grenade avec un manuscrit du Coran grâce à l'aide d'un musulman qui y vivait. Comme ce fut le cas pour Clénard, aujourd'hui encore, des doctorants internationaux et des chercheurs confirmés ne cessent de me demander dans quelle ville espagnole ils peuvent trouver des manuscrits andalous en arabe, car Andalousie en arabe, car ils n'en trouvent pratiquement aucun à Grenade ou à Séville, des villes dont on pense traditionnellement qu'elles possèdent de telles collections, probablement en raison des magnifiques vestiges architecturaux qu'elles conservent. En fait, et aussi étrange que cela puisse paraître, très peu des manuscrits de la période Andalousie sont conservés en Espagne, principalement pour deux raisons. Et je parle des manuscrits de la période Andalousie en général, pas que des Corans. Cette absence se doit à deux raisons. D'une part, des raisons idéologiques. La destruction des manuscrits arabes a été très importante à partir du Moyen-Âge, soit au sein des différentes dynasties musulmanes, Almoravides et Almohades, soit entre musulmans et chrétiens, principalement après la conquête de Grenade avec l'action féroce de l'Inquisition. La deuxième raison la plus importante est la migration de ce type de manuscrits vers les Maghrébs, une région très intéressée par les manuscrits produits en Al-Andalus. Contrairement à cette absence généralisée des manuscrits andalousiens en Espagne, trois bibliothèques de Madrid détiennent les plus grands pourcentages connus des manuscrits coraniques copiés dans l'Occident musulman au XVe et XVIe siècle. Une centaine de codex, tous copiés dans les royaumes d'Aragon, au nord-ouest de la péninsule ibérique, et sont là. Pour l'instant, nous ne connaissons pas autant de manuscrits de cette période produits dans l'Occident islamique, que ce soit au Maghreb qu'en Afrique subsaharienne. Et le fait que nous les trouvions en Espagne est particulièrement surprenant. Au début du XVIe siècle, la profession de la foi musulmane a été interdite dans la péninsule ibérique. Et autres avaient été déconfisqués tous les livres liés à cette région, à cette religion. Et dans les années 1560, l'usage de l'arabe oral et écrit a été interdit. Pourtant, la plupart des manuscrits qui ont survécu de cette période sont des copies du Coran en caractère arabe. La plus importante collection de manuscrits coraniques produits dans l'Occident musulman au XVe siècle est conservée à la Bibliothèque nationale d'Espagne. Jusqu'à l'année dernière, lorsque la collection a été identifiée et cataloguée, on pensait qu'il n'existait pratiquement aucune trace écrite des communautés musulmanes de la péninsule ibérique au XVe siècle. Cette collection est d'une importance capitale, car elle témoigne de la connaissance de l'arabe dans les royaumes d'Aragon au XVe siècle, ainsi que de l'intérêt des Moudéjars pour leurs textes religieux avant la conversion forcée de 1526, avec une grande diffusion des copies du Coran. Rappelons que la région était sous domination chrétienne depuis 3 siècles, et Saragosse ayant été conquise en 1118. La plupart des copies du Coran de l'époque Moudéjar qui nous sont parvenues sont des grands formats, donc du XVe siècle. In folio et in quarto sont des manuscrits unitaires, c'est-à-dire que le seul contenu qu'elles véhiculent est le texte coranique intégral. Au cours de cette période, nous trouvons des copies du Coran, complet, généralement divisées en quarts, comme on mentionnait plus tôt et avec la communication de Louise. Aussi la moitié du Coran, c'est-à-dire les deux premiers ou les derniers quarts, ou un seul quart. La plupart des copies ne sont pas datées, mais différentes caractéristiques codicologiques et paléographiques m'ont permis de dater plusieurs d'entre elles. La copie la plus ancienne conservée à la Bibliothèque nationale d'Espagne date de 1490. Il s'agit d'un volume unitaire en arabe qui n'est transmis que le troisième quart du Coran. Nous savons que la copie a été achevée le 8 du mois de Shawwal 895, ce qui correspondrait au 25 août 1490. Dans les manuscrits Moudéjar et Morisques des 15e et 16e siècles, la date, lorsqu'elle est explicite, présente généralement un élément la reliant à la culture chrétienne environnante, soit les jours, les mois et ou l'année. Cependant, dans ces codex, seule la date apparaît selon les compus musulmans. Moins de 2 ans avant la conquête de Grenade, les copistes, Saad ibn Ismail al-Ansari, ne semblent pas vouloir montrer un quelconque lien avec la culture hispano-chrétienne dominante. En fait, il indique avoir copié les manuscrits dans une mosquée d'une ville du Bilad al-Harb, c'est-à-dire un territoire de guerre, un territoire des infidèles, par opposition au territoire des musulmans, ou d'Al al-Islam, qui à cette époque, dans la péninsule ibérique, était encore le royaume des Grenades. Un an plus tard, seulement en 1491, Yahya ibn Ghalib signe un codex en tête duquel se trouvent les derniers quarts du Coran, c'est-à-dire de la sourate 38 à la fin, bien qu'il soit conservé aujourd'hui dans un état fragmentaire. Dans ce cas, on constate que le manuscrit est achevé un mercredi de la 10e décade du mois de Shaban, ce qui coïncide, selon le copiste lui-même, avec les 20 de juin. Alors que nous avons cette double information sur les jours et les mois, l'année n'est donnée que selon le calendrier égyrien, 896. Il existe des autres manuscrits dans la Bibliothèque nationale d'Espagne qui, je crois, ont été copiés par ces mêmes copistes, Yahya ibn Ghalib. Et il est donc très probable qu'il les ait également réalisés à la fin du XVe siècle. Les trois codices proposent la même solution pour les signes orthoépiques, comme vous pouvez les voir à l'écran. Shadda et Sukun en rouge, sous sa forme actuelle, Hamza en jaune, sous forme de points, et le Wasla n'est pas indiqué. Les signes pour la prolongation de la récitation sont toujours ajoutés en rouge, ainsi que la vocalisation. Dans les couleurs que je viens de mentionner, que la décoration utilisée pour la division des versets montre une nette continuation de la tradition andalousie antérieure. 3 points en forme de pyramide à la fin de chaque verset, quoique que de façon sporadique. Un décor jaune entouré d'une ligne noire à la fin de chaque cinquième verset, bon, un ha, et qui indique la fin du cinquième verset, et un cercle noir avec un point jaune à l'intérieur et quatre petits cercles rouges disposés sur les axes verticaux et horizontaux à la fin du dixième verset. Les trois codex présentent la même esthétique de division liturgique dans les marges, avec des variations très mineures. Les mots hizb, en blanc, entouré de noir sur fond rouge à l'intérieur des cercles concentriques, parfois décorés de quatre cercles rouges. Il s'agit du même type de décoration dans laquelle est inscrite la sajda, indiquant les moments de prosternation. La présence de ces trois manuscrits du Coran copiés par la même main en Aragon à la fin du XVe siècle et dont l'histoire depuis lors jusqu'à l'entrée à la Nationale de Madrid nous est presque totalement inconnue, montre les hauts degrés de professionnalisation des copistes musulmans dans l'Aragon du XVe siècle, ce qui implique la présence des centres d'apprentissage tant de la langue et de l'écriture arabe que du texte coranique lui-même. De même, les caractéristiques matérielles et esthétiques que présentent ces codex indiquent la familiarité que notre copiste Yahya ibn Ghalib avait avec la tradition andalousie, qui implique la possession, la connaissance et l'utilisation des manuscrits de la période antérieure. Cette connaissance des manuscrits antérieurs et cette fidélité à la tradition sont confirmées par les codex Moudéjar que je considère comme les plus anciens de la collection et que j'ai proposé dater du début du XVe siècle en raison du filigrane en forme de cloche qu'il présente semblable à celui de 1411 relevé par Briquet. Il s'agit d'un codex exceptionnel par rapport aux autres exemplaires de notre collection. Ses grandes dimensions, 30 cm de haut, suggèrent qu'il a été utilisé dans le contexte d'une mosquée. Comme nous l'avons vu avec les manuscrits copiés par Yahya ibn Ghalib en 1491, les marges de ces codex du début du XVe siècle contiennent également des informations sur les divisions en hizb ou la prosternation ou la sajda, mais de manière particulièrement décorée et précise. Mais ces codex ajoutent également des informations sur d'autres sections différentes, 10e, 9e, 7e, 6e et 5e. Ces divisions en sections sont abondamment décorées dans la marge. En écriture pseudo-koufique sur fond coloré, le nom de chaque section qui s'achève est précédé du dernier mot du passage par lequel se termine la section précédente. Tout cela est placé dans des rectangles, des cercles ou d'autres formes, toutes différentes. À ce jour, je n'ai pas pu retrouver ce type d'informations. Alia a montré quelque chose qui m'a fait penser à ça, mais je n'ai pas pu retrouver ce type d'informations dans les manuscrits maghrébins ou andalousiens, ni par extension dans les manuscrits moudéjar ou morisques de l'Espagne et de la fin de l'époque médiévale et moderne. Le seul exemple que j'avais pu trouver jusqu'à maintenant, et c'était dans les manuscrits orientaux des 9e et 10e siècle provenant des Foustat, et où j'ai trouvé des parallèles pour ce type de division qui est également relativement rare à cette époque. Des copies comme celle-ci témoignent de la fine connaissance de la tradition entourant les textes coraniques qui pouvaient exister dans les communautés musulmanes d'Aragon au XVe siècle et à laquelle les communautés du XVIe siècle, d'un siècle postérieur, ont continué à voir grâce au maintien de la culture écrite. Un autre grand volume, aussi de 30 cm d'hauteur, et les selles de cette période qui ont été conservées en entier est datée du mois de Rabi al-Akhir, ou août 911, ce qui correspond à l'année 1505. Malgré la date, postérieure aux conversions forcées des musulmans de Castille qui prirent place en 1501-1502, la taille du manuscrit nous fait penser, comme dans les exemples vus précédemment, à une utilisation probable d'anciennes mosquées aragonaises. Comme vous le savez, dans les royaumes d'Aragon, les conversions forcées n'entreront en vigueur que 25 ans après le royaume de Castille, à partir de 1526, et donc les mosquées et la pratique de la prière dans celle-ci était encore autorisée en 1505 en Aragon, donc date dans laquelle ce manuscrit a été copié. Au fur et à mesure que le XVIe siècle avance, et avec les différentes interdictions mises en place également dans les royaumes d'Aragon à partir de 1526, la production manuscrite du Coran dans la péninsule ibérique change, révélant clairement de nouvelles utilisations dues au changement de la situation religieuse et culturelle. Après les conversions forcées, la connaissance de l'islam et de la langue arabe s'est progressivement perdue. Les mosquées, en tant que telles, ont disparu. Et bien que les Morisques aragonais aient continué à se réunir les vendredis pour la prière collective, ils ont dû les faire dans des maisons privées et en secret. Les alfaqis allaient d'un village à l'autre pour diriger la prière, fonction qu'ils alternaient avec l'enseignement. Ils emportaient leurs livres avec eux, de sorte que la taille des manuscrits était réduite, tout comme leur contenu. Ainsi, la plupart des manuscrits copiés à l'époque morisque, 16e siècle, début 17e siècle, sont des formats in quarto et surtout in octavo, et non in folio comme c'était à l'époque précédente. L'adoption de ces nouveaux formats plus petits permettait de lire ces volumes partout et de les transporter plus facilement d'un endroit à l'autre. Avec un pouvoir d'achat et un accès à l'éducation bien inférieur à ceux du siècle précédent, les Morisques ont consenti un énorme effort pour restaurer la culture matérielle antérieure. Non content de copier des nouveaux manuscrits, ils restauraient aussi les plus anciens, les complétant si nécessaire, tant sur les plans matériels que textuels. S'il y a un exemple de restauration, qui est difficile à voir si on ne prête pas attention. Et ici, il y a un autre exemple de restauration beaucoup plus clair. En fait, c'est si clair qu'il faut vraiment prêter attention parce qu'on peut penser dans un premier moment qu'il s'agit de des manuscrits, de des unités codicologiques complètement différentes, sans aucun lien entre elles. Mais c'est la restauration. Un changement est également intervenu dans le contexte textuel du Coran. Alors qu'au XVe siècle, plusieurs exemples des manuscrits complets du Coran ont été conservés, ainsi que des volumes contenant les deux premiers ou les derniers quarts du Coran, tout formant des volumes unitaires entiers. Au fur et à mesure que le XVIe siècle avance, les textes coraniques sont systématiquement présentés comme les premiers chapitres des miscellanées, tandis que les manuscrits unitaires consacrés au Coran sont pratiquement absents. Bien que les différents quarts continuent à être copiés indépendamment, les manuscrits les plus répandus dans l'Aragon musulman du XVIe et début du XVIIe siècle est ce que j'ai appelé les Corans morisques. Il s'agit d'un produit nouveau, non attesté auparavant, ni à l'époque Moudéjar, ni Andalousie, ni au Maghreb, et constitue une sélection homogène des versets coraniques et sourates, les copies présentant des très légères variations de l'une à l'autre. La plupart des copies de ces Corans morisques, dont le contenu principal est sur l'écran, se trouvent dans les bibliothèques Tomás Navarro Tomás dice ici qu'à Madrid et dans la bibliothèque de l'Académie royale de l'histoire aussi à Madrid. Ils se caractérisent, outre par leur contenu, et par la variété linguistique qu'ils présentent. Arabe, aljamia, une variante du castillan plus ou moins arabisé et archaïsant, généralement écrit en caractère arabe, et en bilingue, donc en arabe et en aljamia, en espagnol en caractère arabe. En fait, ces sélections homogènes des sourates et des versets, ou en d'autres termes, ces Corans morisques sont les premiers textes coraniques que nous trouvons en traduction espagnole. Ils constituent généralement les premiers chapitres des miscellanées, in quarto, mais surtout in octavo. Ils sont pour la plupart en arabe, mais aussi on les trouve en version bilingue, avec la traduction soit interlinéaire, soit paragraphe par paragraphe. Ces copies bilingues en arabe et en aljamia révèlent une plus grande familiarité des lecteurs et des auditeurs avec la langue castillane à cette époque. Cela ne signifie pas que l'arabe a disparu. En fait, des copies uniquement en arabe du Coran morisque étaient encore produites, comme c'était le cas dans d'autres régions du monde musulman non arabophone, où de telles sélections ou extraits sont également attestés entre le XVIIe et le XIXe siècle, donc dans l'Empire ottoman, en Inde, l'Asie centrale et la Malaisie. Ainsi, la présence de ces sélections homogènes du Coran est une caractéristique que les morisques partagent avec les ottomans. Mais il en est une autre qui est encore plus frappante. Une autre caractéristique que ces morisques partagent avec les ottomans, ce sont les copies pseudo-facsimiles du Coran morisque que l'on trouve à la fin du XVIe siècle et qui nous rappellent les Corans ottomans à 15e ligne, dont la formule a sans doute commencé à se répandre au XVIIe siècle et qui est devenue extrêmement populaire au XVIIIe siècle dont on a parlé aussi dans la session, la première séance de cet après-midi. Dans le contexte morisque, j'ai trouvé trois manuscrits fragmentaires qui transmettent un contenu identique à celui du Coran morisque, avec leur traduction aljamiada issue de la même tradition textuelle. Ils sont à leur tour en commun une même taille, les mêmes copistes, les mêmes types de papier, et ce qui est plus surprenant, ils sont également en commun les mêmes types de mise en page. Même nombre de lignes par page, chaque ligne et chaque page commençant et se terminant par les mêmes mots. Cette production à la chaîne permet de réduire les coûts et de copier avec une plus grande rapidité, puisqu'il n'est pas nécessaire de planifier chaque travail. Est-ce que ce phénomène a un lien avec une tradition antérieure comme celle dont Morteza vient de nous parler, de laquelle nous n'avons pas de témoignages, ou serait-ce une influence des procédés ottomans, bien que nous n'ayons pas pu en trouver des exemples si anciens dans le monde ottoman, ou simplement c'est un reflet des manières de faire de l'imprimerie du sage courant dans l'Espagne chrétienne de l'époque. Pour l'instant, nous ne disposons pas de données suffisantes pour répondre à cette question, mais je ne connais pas d'exemple, ce que j'ai pu confirmer, et que je ne connais pas d'exemple similaire dans l'ensemble de l'Occident musulman. J'ai indiqué plus haut, avant, que la plupart des traductions aljamiadas des textes coraniques sont tirées du Coran morisque. Néanmoins, il y a des exceptions à cela. D'une part, le Coran dit de Tolède. C'est le seul exemple à conserver d'une traduction en castillan du Coran complet de cette période. C'est du début du XVIIe siècle, aussi un quart. Il a été copié en Aragon en 1604 en caractère latin, par opposition au reste de la production musulmane en espagnol produite dans cette région de l'Aragon, qui est toujours en caractère arabe. Il s'appelle le Coran de Tolède parce qu'aujourd'hui c'est conservé à Tolède, même s'il a été produit en Aragon. La référence arabe de cette traduction, comme vous pouvez le voir, est totalement absente. D'autre part, l'exégèse du Coran. Les seuls exemples des tafsir qui ont survécu de ces communautés ont été copiés au XVIe siècle, et tous sont des versions al-Jamiyada. En revanche, aucune copie péninsulaire du XVe siècle n'a survécu, ni en arabe, ni en aljamien. C'est al-Munafid de la Sierra, un petit village à proximité de Saragosse, que les quatre exemplaires qui subsistent ont été copiés au XVIe siècle. Quatre copies des traductions al-Jamiyah du tafsir d'Ibn Abi Zamani. Deux des exemplaires, des volumes, du premier quart, issus de la même tradition textuelle al-Jamiyah, mais avec une disposition différente du texte arabe, comme vous pouvez le voir. La traduction est exactement la même, même si la disposition du texte arabe est complètement différente. Des autres de la quatrième partie du Coran. Il n'existait pas non plus de traces de textes en arabe datant de ces siècles du XVIe siècle. Cependant, nous pouvons supposer que les morisques avaient accès à ces modèles, au modèle arabe dit tafsir, puisque nous avons conservé une série de glossaires contemporains qui nous laissent penser que les traducteurs ont utilisé ces ouvrages pour leur propre traduction. Parce que ce sont des lexiques qui ont un lien direct avec les manuscrits que je viens de montrer. Enfin, l'analyse des matériaux de ces collections m'a permis d'établir des liens entre la production des copies du Coran dans les royaumes d'Aragon et le traitement du texte coranique et la production des livres dans les autres royaumes péninsulaires, l'Afrique du Nord et l'Empire ottoman. Ces liens seront examinés plus en détail et s'avéreront sans doute très précieux pour compléter notre vision de l'histoire du Coran dans les communautés musulmanes de l'Espagne médiévale et moderne. Il présente surtout l'intérêt de contribuer à casser l'image reçue des communautés morisques repliées sur elles-mêmes, coupées du monde musulman contemporain, et de fournir des matériaux pour une histoire enterrée de l'islam péninsulaire pour la période qui va de la prise des Rénades à l'expulsion des Morisques de 1614. Merci beaucoup.